Radio Grand Ciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois le chirurgien Bernard Banco qui a évoqué dans une première émission son parcours. Il est chirurgien généraliste et il était PDG de la clinique Bon Secours à Chartres. Bernard Banco, bonjour.
Bonjour Christiane.
Dans une première émission, vous aviez expliqué ce qu'était une hernie. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous demander comment on opère cette hernie.
Effectivement, la hernie est une pathologie fréquente. Un certain nombre de personnes que l'on connaît ont eu ce problème et le plus souvent, elles se sont fait opérer. Parce qu'on leur a conseillé, parce que c'est plus compatible avec une vie physique et active que d'avoir en permanence une tuméfaction inguinale qui vous gêne et qui vous pèse, en particulier le soir, et qui vous empêche d'avoir toute votre activité physique.
Mais là, est-ce qu'il faut faire une anesthésie générale ou bien ça peut être en ambulatoire?
Et donc actuellement, une hernie est presque toujours opérée en ambulatoire.
Donc c'est localement?
Ambulatoire ne veut pas dire anesthésie locale. Ça peut être une anesthésie générale aussi. Mais actuellement,
vous dites qu'on peut faire une anesthésie générale
à quelqu'un qui arrive le matin dans l'établissement et qui repart le soir. Il n'y a pas de problème.
Mais il est vraiment complètement endormi.
Ah oui, ça c'est
sûr. Il n'est pas du tout conscient.
Ah non, il ne s'en souvient plus.
Ah d'accord. Ouais. Bon, alors on aura appris une chose sur l'anesthésie.
Et donc l'ambulatoire, en fait, je vais décrire cette nouveauté éventuellement.
Oui.
On arrive le matin dans l'établissement de soins, dans
la clinique, l'hôpital.
Dans des chambres où le personnel infirmier prend connaissance de votre dossier, de vos problèmes. On a vu antérieurement le chirurgien en consultation et aussi l'anesthésiste, éventuellement le cardiologue. À partir du moment où on a un certain âge, c'est légal, c'est comme ça, tout est codifié maintenant en France, tout est écrit et donc on n'y échappe pas. Et on a la consultation d'anesthésie, on a son examen cardiaque s'il le faut en appliquant les règlements prescrits. Le matin, on arrive donc dans cet établissement, dans la chambre. L'infirmière vérifie que tout est en ordre.
Sans avoir mangé, j'imagine.
Qu'on est bien à jeun, effectivement. Bien que, théoriquement, il faut être à jeun, mais c'est prescrit, c'est comme ça. Je n'en dirai pas plus, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Enfin, ah bon ouais, vous trouvez enfin, que c'est mieux si les gens...
Non, il ne faut pas qu'ils mangent, ça c'est sûr.
Non.
Mais il ne faut pas tout arrêter complètement non plus. D'ailleurs, on lui donnera à ce patient un petit verre d'eau, ou même un grand verre d'eau si on veut, pour qu'il prenne sa prémédication. Donc il aura un petit médicament pour le décontracter, pour stabiliser l'émotion, l'émotivité, et qu'il arrive au bloc tout sage,
détendu.
Comme il faut, détendu.
Ce qui n'est pas une mince affaire.
Bah oui, exactement, il y a toujours une appréhension, quelle que soit l'intervention.
Bah, oui.
Une anesthésie est une intervention, c'est une petite mort. Hein. Et
bah,
donc
oui,
on l'appréhende comme ça.
Exactement.
Souvent, les personnes ont plutôt peur de l'anesthésie que de l'intervention elle-même.
Mais oui, parce qu'on se dit, on ne va rien sentir.
Ça
mais...
fait toujours plaisir au chirurgien, c'est sûr. Et alors, donc, il arrive dans la salle d'opération. Donc, on peut faire une anesthésie locale. Donc, on fait une anesthésie à la xylocaïne par des piqûres locales ou une anesthésie générale par voie intraveineuse complète.
Et vous aimiez mieux quoi ?
L'un et l'autre ont leurs difficultés ou leurs dangers. De toute façon, tout geste chirurgical ou tout geste anesthésique a un danger. Il y a toujours une répercussion. Finalement, les risques sont peut-être les mêmes.
Ah, c'est pareil.
Souvent, celui qui a peur va demander une anesthésie locale, mais il a tort. Parce qu'en fait, il va appréhender beaucoup de choses et ça pourra se passer pas tout à fait comme il faut, comme espéré. Actuellement, une bonne anesthésie générale, on ne s'en aperçoit pas, on a un souvenir de bonheur finalement, on ne se souvient plus de la salle d'opération, on ne se souvient même plus de la salle de réveil, parce qu'après il faut passer en salle de réveil, où on vous surveille pendant au moins une heure, ou plus éventuellement, et on a presque envie d'y retourner.
Ah non.
C'est vrai. Donc ça doit être une drogue terrible, parce qu'on a envie d'en reprendre un petit peu.
Vous n'avez jamais eu d'opération ?
J'en ai eu une fois.
Et vous avez un souvenir et de bien-être.
Oui, on a ce souvenir-là. On a ce souvenir-là. On s'est endormi comme ça, comme dans un rêve. Mais c'est les produits actuels qui font ça. Avant, c'était pas tout à fait la même chose. Quand on avait l'éther ou d'autres
ça
produits
devait être très désagréable.
Qui vous donnaient vraiment comme un coup.
Bon. Non.
Et alors, donc, cette intervention se déroulera de deux façons, là encore. La façon classique, par une incision en regard de la région inguinale. C'est ce que le marquis de Villeroy a eu quand on l'a opéré de ses hernies. Et puis maintenant, on peut faire ça sous célioscopie.
Et vous préfériez sous célioscopie ou...
Et donc, là encore, ma réponse sera comme la précédente pour les anesthésies, c'est selon.
Ah oui, c'est selon...
C'est finalement, pour faire une célioscopie, à la limite, le danger est peut-être plus important pour le patient.
J'imagine.
En ce sens qu'il faut une anesthésie profonde, complète et peut-être au curare. Ce qu'on peut ne pas faire, mais théoriquement et classiquement, il faut injecter du curare. Il y a des accidents au curare, des gens qui ne supportent pas le curare, et donc c'est un élément de plus, alors qu'une incision inguinale banale, l'anesthésie peut être relativement légère, on peut faire des antalgiques un petit peu forts, et ça passe plus facilement.
Donc maintenant, on dit toujours c'est sous célioscopie,
voilà,
c'est
bien.
Pas tellement bien
C'est très technique, c'est sans doute bien, c'est peut-être mieux, mais les risques sont supérieurs, c'est sûr.
Ah, bonne information.
Donc c'est un choix. Ils ne sont pas énormes, hein. Maintenant les statistiques ça marche au un millième, mais c'est une fois
mais
sur...
Si on est le millième...
Voilà, exactement.
Alors, donc, vous avez fait l'incision,
voilà.
J'en étais là,
ouais,
hein, on
exactement.
Commence à avoir très
voilà.
peur.
Et donc, le chirurgien
vous
arrive
êtes
sur
droitier.
Ce qu'on appelle, je suis droitier, ouais. Mais il y a des chirurgiens très habiles qui sont gauchers aussi. Hein.
Ah oui.
Mais il faut savoir se servir des instruments. Donc, le chirurgien arrive sur le sac hernière. Le plus souvent, quand le patient est en position allongée, l'anse-grêle est rentrée dans le ventre. Mais pas toujours quand la hernie est engouée, comme on appelle ça, ou quand elle est étranglée. Donc à ce moment-là, il faut que les chirurgiens y aillent prudemment pour ouvrir l'anneau hernière, pour libérer le grêle et permettre au grêle de retourner dans la cavité abdominale. Une fois les choses remises en place...
Ça demande combien de temps? Parce qu'on dit que plus une opération est rapide, mieux c'est quand même.
Oui, exactement. C'est sûr. Mais il ne faut pas non plus aller trop vite. Entre une demi-heure et une heure, il n'y a pas de différence.
Ah oui.
Entre une heure et demie, il n'y a
oui.
pas de différence.
Ah
il y a une différence entre une heure et cinq heures, ça c'est sûr.
Oui, quand même.
Ouais. Donc, mais sans ça, si vous voulez, vaut mieux y aller actuellement, sagement, posément, en ayant le maximum de précautions et que l'anesthésiste ait bien toutes ces courbes qui s'inscrivent sur ces écrans corrects. Enfin voilà, il faut savoir s'arrêter quand il y a le moindre problème pour dire attention, on analyse, on regarde et on verra si on continue.
Bon, on commence à avoir la chair de poule.
Bon, le plus souvent, ça marche tout seul. Il
hein.
ne faut pas exagérer, mais... Il faut savoir qu'on est en éveil
oui.
pour toute difficulté éventuelle.
Donc, l'incision est en fait, vous remettez...
L'intestin grêlé dans le ventre. Maintenant, oui. il faut consolider la paroi.
Ah.
Parce que chez l'enfant, c'est une petite malformation. Alors, je veux bien qu'on développe un tout petit peu ce qu'on n'a pas fait, la hernie de l'enfant. C'est la migration du testicule dans le huitième mois de la grossesse qui laisse le passage et qui ne s'est pas refermé.
Ah là là.
Alors, donc, c'est pour ça que ça arrive plus souvent chez les prématurés.
Ah oui.
Parce que
mais
cette fermeture
fini,
ne s'est
quoi,
pas faite. Et puis, de temps en temps, quand ça se produit pour d'autres enfants, on dit à la maman, dites donc, vous n'avez pas fait tout le travail. Mais il ne faut pas le dire trop fort parce que ça la vexe, en fait.
Mais oui, c'est sûr.
Elle a fait des choses tellement importantes, entre autres. Mais voilà, le travail n'est pas tout à fait terminé. Et le petit trou ne s'est pas bouché. Et donc, il faut simplement aller mettre une ligature sur le sac hernière, sur le péritoine pour fermer, et c'est tout. Ça suffit. La paroi est solide et il n'y aura pas de problème. Ultérieure. En revanche, chez l'adulte, il y a une paroi qui est déficiente et qui s'est affinée, qui est fragile, et donc il faut réparer. Alors, du temps de monsieur de Villeroy,
oui.
Eh ben, il remettait le sac en place et puis il mettait des emplâtres ou des choses comme ça pour favoriser la cicatrisation.
Ouais.
Mais il ne mettait pas de ligature. Et même monsieur, le livre de technique que j'ai regardé, eh bien, critique certains qui mettaient un fil d'or, un fil de plomb pour refermer le sac hernière. Et parce que effectivement, ce fil pouvait être pas mis au bon endroit, ligaturer une artère ou autre chose.
Ouais. Et vous ligaturez comment alors?
En revanche, nous, parce qu'on a le temps de regarder. Ouais, ouais. À cette époque-là, il fallait qu'ils aillent sans doute assez vite. Et donc, nous, on voit bien les choses et on ligature le péritoine chez l'enfant, chez l'adulte aussi, mais on met ce qu'on appelle une plaque. On reconstruit la paroi.
Alors, c'est quoi la plaque?
À une certaine époque, et donc les Canadiens s'étaient rendus célèbres parce qu'ils faisaient un commerce international sur la hernie.
Ah bon?
Ils s'enrichissaient sur le dos de leurs patients. Et ils faisaient venir leurs patients du monde entier pour effectuer à Toronto ou dans un endroit comme ça. Toronto doit être au Canada, sans doute, j'espère.
Oui, oui, oui. ça, j'y suis sûr.
Et donc, on débarquait en Toronto et ils faisaient ce qu'on appelle la technique de Schuldis. Ils faisaient un tresse de Schuldis. Et donc, c'est un tressage avec un fil d'acier. Donc, finalement, entre le maréchal et Toronto, entre l'or et l'acier, il y a une proximité importante. Et en France, on a fait ces interventions pendant de nombreuses années. On ne mettait pas un fil d'acier obligatoirement, mais on mettait un fil non résorbable. Mmh. Et donc, le critère dans la hernie de l'adulte, c'est la matière non résorbable consolidée. Maintenant, la nouvelle matière importante, c'est le polypropylène.
Alors, c'est du plastique, ça.
C'est du plastique moderne à base de produits pétroliers. Et maintenant, tout est fait en polypropylène. Là, je regarde autour de moi, j'en vois pas trop, mais dès qu'il y a un seau en plastique, c'est du polypropylène. Et dès que vous achetez un tapis ou autre, c'est garanti 100% polypropylène.
Ah oui, et c'est ce que vous mettez donc,
et donc
pour
voilà,
ligaturer.
On ne met pas un tapis, mais c'est une plaque fine,
une plaque
en maillage. C'est comme du papier fin, si vous voulez, qu'on met pour doubler la paroi au plus profond, pour la rendre plus solide. Et puis, il y a un petit trou pour laisser passer le cordon qui va au testicule, éviter que...
Et après, on recoue.
Et après, on fixe la plaque pour pas qu'elle bouge et c'est tout.
Quand vous dites fixer la plaque...
Bon, on met un point sur la plaque, ou deux ou trois, pour pas qu'elle se déplace au moment de la cicatrisation. Mais cette cicatrisation est assez rapide, elle se fait en quelques jours.
Oui, c'est ça.
Et donc, ta paroi est solide très rapidement.
Donc là, le malade, enfin le patient,
donc
retourne...
Donc le patient a été opéré, après il retourne à la salle de réveil, puis après dans sa chambre, et puis l'infirmière va tester sa façon de se remettre debout, son équilibre, son autonomie. Le chirurgien et l'anesthésiste repasseront dans sa chambre pour lui dire « vous pouvez partir ». Il aura sa lettre de sortie. Et puis, on pourra soit sa famille l'accompagner chez lui ou éventuellement une ambulance pour le ramener chez lui s'il y a deux étages à monter.
Il y a un régime alimentaire.
Théoriquement, il faut qu'il mange pas trop le soir, mais il n'a pas tellement envie. Oui. Et puis le lendemain, qu'il soit fasse un petit peu attention. Et puis, il se remet progressivement. Alors, ils ont une petite... feuilles sur lesquelles sont marquées les prescriptions de ce qu'il y a à faire et ne pas faire pour...
Eh bien, docteur Banco, un grand merci. Je crois que nos auditeurs auront bien compris en quoi consistait cette opération. Chers auditeurs, vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, docteur Banco.
Merci, Christine.